Alors, celle-là, elle est importante. Parlez-moi d'une situation d'urgence ou de crise à laquelle vous avez été confronté dans vos emplois précédents. Quel était votre rôle? Qu'avez-vous fait? C'est la gestion du stress. A priori, ils vont vous la poser, celle-là. En situation de crise, d'urgence, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez déjà connu des situations antérieures sur lesquelles vous pouvez... ça s'appelle la modélisation. En gros, si vous avez déjà vécu ça dans le passé, là, vous avez une solution. Au cas où pour la vie. Vous pouvez essayer de réappliquer. Après, situation de crise, c'est, j'ai un dossier, alors moi je travaille beaucoup dans l'industrie auto, les situations de crise habituelles, c'est le fournisseur qui ne livre pas une pièce.
Bon, on a eu une crise, hein, pour ne pas parler d'industrie, mais parler du cabinet, de notre cabinet récemment.
Une réponse à l'appel
d'offres. Voilà, une réponse à l'appel d'offres. L'appel d'offres, voilà, nous on est un cabinet qui n'est pas forcément spécialisé dans l'appel d'offres. On nous dit qu'il y a une appel d'offres qui nous correspond totalement, on nous le dit un peu tard, et il faut rédiger tout en 2 jours. Donc là, c'est mobilisation de l'équipe entière pour respecter les délais et pour pouvoir déposer le dossier.
Souvent, c'est ça, hein, c'est le respect des délais.
C'est
les deadlines.
C'est l'urgence.
La bonne réponse, c'est ouais, une crise, je pense qu'on voit un peu ce que c'est, et du coup, la réaction... qu'on est censé avoir, qu'on aurait voulu avoir, c'est un fait des deadlines ou...
Ouais, c'est ça, c'est-à-dire comment je gère une situation dans laquelle, en fait, la situation de crise, c'est voilà, comment je gère un imprévu. C'est une gestion d'imprévu.
Comment je gère un imprévu, j'en sais rien, moi.
Ça dépend des situations.
Je travaille tout le temps jusqu'à ce que tout se réforme, voilà.
Mais c'est ça, mais en mieux.
Ou par exemple aussi, une crise, c'est peut-être un collègue qui, voilà, et comment on gère ça, voilà. Comment on... qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, on veut passer par un premier entretien, de lui demander de se calmer, de voir s'il veut parler, de demander bah voilà, un service ressources humaines, voir s'il va pas,
un fournisseur qui livre pas,
bah voilà, trouver une solution pour qu'il livre, ou en trouver un autre, enfin c'est
envoyer un taxi,
voilà, UPS, enfin gérer au mieux, ouais, c'est toujours cet imprévu et cette urgence qui est dans cette notion quand même. Et alors, il n'y a pas de réponse type parce que...
Il faut trouver dans son expérience passée quelque chose qui ressemble le plus à une crise et trouver une thématique et l'expliquer. Voilà. C'est pour ça quand on dit connaissez votre CV par cœur, c'est ça. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est souvent l'illustration hein, qui fait la différence. Hein. Si vous restez très général, ils ne vous prennent pas.
Et évitez de prendre « j'ai un ami à qui c'est arrivé hein ». C'est à vous que c'est arrivé. Si vous dites « j'ai plus de gestion de crise à gérer jusque-là », soyez honnête, j'en ai pas eu jusqu'à maintenant. D'accord? Ne vous mettez pas à la place d'eux, vous n'êtes pas les autres, vous êtes vous.
Alors, tout le monde est stressé, décrivez-moi la situation qui au bureau vous suscite le plus de stress. Comment gérez-vous habituellement? Encore une fois, trouvez un exemple dans votre passé. Lors de votre dernière expérience, qu'avez-vous appris? Comment allez-vous mettre en pratique ces nouvelles connaissances? Ça, c'est un méga classique. C'est-à-dire qu'on attend à ce que, durant tout votre parcours, vous ayez progressé. Donc à chaque expérience, qu'est-ce que vous avez appris? Stage, expérience, thèse, docteur, tout ce que vous voulez. À chaque fois, il faut ressortir des éléments. Citez-moi un défi auquel vous avez été confronté dans vos précédentes fonctions. Comment l'avez-vous relevé? Challenge, défi, tout ce que vous voulez. Comment j'arrive à sortir du cadre? Alors ça, bon, c'est une question de management que vous n'avez pas. Alors voilà, la communication avec les comment vous communiquez? Avec vos supérieurs, vos collègues, vos subordonnés si vous en avez, et ou vos pairs, vos transversaux. En sachant qu'évidemment, il faut s'adapter à chaque type de conversation, de personnalité par exemple. Citez-moi l'exemple d'une situation que vous avez prise en main sans que cela ne vous soit formellement demandé. Donc là, c'est ce qui s'appelle être proactif. Mot à la mode qu'il faut connaître. Dans vos expériences précédentes, quelles expériences de travail avez-vous avec des personnes d'âge différent, de cultures différentes et de personnes handicapées. Elle est plutôt rare, celle-là. Encore une fois, on teste votre adaptabilité. Surtout avec les personnes handicapées. Il n'y en a pas tant que ça, c'est plutôt difficile. Mais bon, comment vous travaillez avec des gens qui sont plus vieux que vous, c'est un classique de chez classique, celle-là, par contre. Dans vos expériences précédentes, avez-vous préféré travailler principalement avec des hommes ou des femmes? Expliquez-moi pourquoi. Attention, question piège. Ni l'un ni l'autre. J'aime tout le monde. C'est une question discriminante. Normalement, on n'a pas le droit de vous la poser. Mais elle arrive souvent quand même. Les questions discriminantes, on n'a pas le droit de vous poser. Et vous nous travaillez avec des seniors. Bon, mieux. Et vous nous travaillez avec des hommes et femmes, les handicapés, tout ça. Normalement, c'est formellement interdit. Il n'empêche que ça arrive.
Que ça arrive. Et non, préparez-vous parce que ça arrive. Même s'ils savent qu'ils n'ont pas le droit, ils le font. Certains, pas tous, hein, bien entendu.
Et enfin, décrivez-moi une situation où vous êtes allé au-delà de votre fonction pour aider un client. Fournisseur. En fait, c'est comment votre capacité à sortir des cadres de l'entreprise. Aller plus loin que ce qu'on vous demande.
Qu'est-ce qu'on répond à tout le monde quand on travaille avec des clients?
Raconte comment tu as déjà travaillé avec Esmer.
Ici, on n'a pas de problème.
Même dans tes chargés de directeur.
Oui, voilà, on n'a pas.
Bah, c'est ça. C'est ça qu'en fait qu'on te demande, fondamentalement. Et du coup, plus ça part de ton expérience perso, mieux c'est. Non, disons que ça vous demande comme question, mais plus on sent que c'est honnête, si tu t'as pas et que tu as vraiment vécu ça, plus ce sera facile à imaginer pour nous. Parce que ton chef, il peut avoir 55 ans, ton chef, tu vois. Et donc, du coup, ça fait 30 ans qu'il est en entreprise et qu'il a des modes de pensée et de fonctionnement qui sont complètement différents de ce que tu peux imaginer. Ou faire. Donc, l'idée presque, c'est de savoir est-ce que tu serais capable de t'adapter à cette situation-là, où ton chef, effectivement, est plus ancien, avec quelqu'un qui, effectivement, vient d'un autre monde, et est-ce que vous êtes. Est-ce que c'est compatible, quoi, presque.
Quel mot
on utilise
pour
Quel mot
utiliser relation, c'est directeur de l'équipe. Je ne sais pas après comment développer, comment les formuler.
Sur la façon de travailler avec des seniors?
Oui.
C'est ça?
Par exemple, avec notre chef d'équipe.
Bah, si c'est avec ton chef d'équipe, tu dis, bah, moi j'ai déjà travaillé effectivement avec des seniors, ça ne m'a jamais posé aucun problème parce que je suis ouvert, adaptable, parce que notre relation a bien fonctionné, que j'ai mené mon projet jusqu'au bout. Parce que que ça ne pose pas plus de problèmes que ça. Quoi. Parce que comme tu es quelqu'un d'organisé rigoureux, par exemple, tu vas jusqu'au bout des choses et que du coup, si ça te demande, tu respectes les deadlines, tu respectes ses ordres et que tu es capable de proposer d'autres choses s'il a envie. Ça va ça? Oui, pardon.
Question de pouvoir à la question si on pose comment est-ce que vous voyez manager les personnes
de. Ça, c'est très difficile. Ça. Ça, c'est très difficile.
Enfin, je vois en tant que producteur, on a peut-être qu'on parle des techniciens ou des ingénieurs, et je sais qu'il y a des choses.
Alors, ouais. Alors, celle-là, il faut que tu imagines un cas dans lequel tu puisses dire moi, j'ai pas d'expérience de management, tu peux pas tracer. Voilà, et là, du coup, tu la joues au maximum, et tu dis voilà comment j'imaginerais les choses. Je sais qu'ils attendent plus ça, que je serai à l'écoute. Enfin, tu as un problème de thématique, genre, obligatoire à dire. Et là où tu peux être bon, c'est renvoyer la question en haut en disant est-ce que vous avez prévu des formations sur le management. Et du coup, toi, tu rentres dans un échange. C'est plus que la personne qui est interrogée, mais tu rentres dans un échange. Ouais, j'imagine que vous, peut-être, avez-vous envisagé pour les jeunes diplômés un parcours de formation, au management, etc. Parce que, évidemment, vous savez bien que, etc. Et là, plus tu la joues honnête, plus tu es dans l'échange. Et là, plus ou mieux, c'est bien pour toi. Je pense que c'est facile. D'autres questions pour terminer?
Et en fait, par rapport à la première question que vous avez montrée, parce que celle-là m'avait été posée, qu'est-ce que vous aimez ou vous aimez moins dans la façon dont vous avez dirigé? Est-ce qu'il faut être honnête de dire exactement ce qu'on n'a pas aimé ou est-ce qu'il y a des choses.
Qu'est-ce que tu as dit exactement?
Moi, j'ai dit que quand il y avait vraiment des critiques, je préférais que ça se passe par exemple en tête à tête et pas en réunion d'équipe avec les gens. C'était la façon de faire de.
C'est bon ça.
Ouais. Ouais, ouais, ça marche. Ouais. Tu dis, voilà, j'accepte les critiques, si elles sont constructives. J'ai besoin d'être comme, étant un jeune chercheur, un jeune thésard, je sais pas comment vous présenter. J'ai besoin d'avoir des objectifs clairs, et notamment sur la partie évaluation. Voilà, donc je sais que la façon dont j'avais été aimé, c'est que j'ai été prise à part pour me faire avancer les choses, etc. J'aime pas être critiqué en public, surtout si c'est pas gratuit ou pas constructif. Voilà. Est-ce que la façon dont t'as moins, et tu peux être moins aimé dirigé, c'est de dire qu'on me laisse trop dans mon coin, quoi. J'ai besoin, aujourd'hui, voilà, j'ai telle expérience, mais je sais que j'attends l'adaptation, et j'aurais besoin d'être comme ci, comme ça. Enfin, d'être plus ou moins, alors, pas trop non plus, parce que... Mais voilà, où tu dis je suis assez autonome et j'ai besoin d'avoir des objectifs clairs. Qui est une réponse absolument bateau, mais qui marche à tous les coups. Ça va ou ouais.
Vous parliez des postures, c'est quoi les bonnes postures en fait?
Je sais pas, j'ai des trucs, j'ai des photos.
Ah ouais, est-ce que vous voyez là? Ah, ça va être trop petit. Est-ce que vous arrivez à voir ou pas? Alors, là, elle est assise sur le bout de la chaise, les jambes croisées, la main comme ça, en haut, et la main qui est 19 boules. Ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous rentrez dans la bulle de l'intimité. Trop fort. Même si le bureau, en plus vous voyez le bureau il est carré. Là, elle est plutôt en arrière, relax. Non. Enfin, trop détaché, trop... je sais plus le... Enfin, vous voyez, ça peut dire trop décontracté pour un entretien de recrutement. En gros, moi aussi je suis en face, elle dit mais tu me la gueule ou quoi? Je suis allé là quoi. Ensuite... Ah mince. En gros, il y a qu'une position. Hein. Voilà. Donc, celle-là, trop détachée, trop, etc. Ah oh là là, j'ai pas y arriver, pardon, hein, je suis... J'ai oublié de vous décoller en fait. Là, vous voyez passer des choses, être pressé, raconter sa vie. Donc voilà, la position suivante, c'est les bras fermés. Quand vous avez une personne qui a les bras croisés devant vous, vous fermez, c'est interdit toute communication. Vous faites un mur, vous faites physiquement un mur. Donc vous empêchez l'autre de rentrer en communication avec vous. Celle-là, elle baisse la tête, pareil. Bon, la désinvolte. Voilà, désinvolture. Je suis mal à l'aise, je suis timide, ça va pas te faire. C'est vous, vous commencez perdant. Hein. Ah, il m'a appelé comme ça, spectateur. Voilà, c'est inattentif en fait. Et normalement. Alors, le nerveux. C'est parce qu'en fait on voit pas, mais vous voyez les gens qui... Et on entend tout, ne jouez pas avec c'est votre cible, faites attention à ce que faites vos mains, notamment. Enfin, les postures. Les trucs comme ça, c'est interdit. Hein. C'est, j'ai les mains comme ça, et je suis ouvert à vous, à la toute communication, voilà. Les mains sont un élément de stress à gérer. Hein. Et notamment faites attention si vous jouez avec votre stylo, c'est insupportable. Donc le faire tourner, le clic-clic, là, exactement ça, le clic-clic. Nous, on l'entend. Hein. Donc si on vous demande arrêtez de jouer avec votre stylo, vous voyez ce que ça vous fait. Hein. Enfin, vous avez déjà perdu, quoi, en gros. Ah, j'ai fait un... Bon, bref. Et la seule bonne attitude que je vais vous montrer comme ça, plus simple. C'est comme ça. Hein, et comme ça quand on parle, Le bout de la chaise.
Hein ?
Le bout de la chaise. Ah oui, voilà. Jamais au fond. Jamais au fond. Vous êtes assis toujours comme ça, le dos droit. Je sais pas si vous voyez. C'est comme ça. Vous voyez, il y a une table, le dos droit comme ça. Et posé. Les coudes, ils sont là. Hein. Ils sont jamais au-dessus. Vous n'êtes jamais assis comme ça. Ils sont toujours là. La bulle de l'intimité, même on respecte.
Mais on peut quand même toucher le bureau.
On peut toucher le bureau, mais après autorisation, si c'est le bureau du RH ou de la personne. Si c'est table ronde, vous pouvez y aller. Et si vous voulez prendre des notes, vous demandez à sortir pour le faire. Oh, pardon. Et vous notez comme ça. N'allez pas trop loin. Le mieux c'est le cahier. Parce que le cahier, vous pouvez le poser comme ça. Vous pouvez le mettre sur vos genoux.
Alors, pas de réunion, ça ne sert à ça.
Est-ce que ça va?
Pourquoi il faut se passer un bout de... C'est ni trop confortable, ni sur le bout de la chaise comme si vous préférez partir. Bon, ce sont des petits détails, hein, pas trop se formaliser là-dessus, mais ça a son importance. Alors évidemment, ça a un peu plus d'importance pour les gens qui sont, ce qu'on disait tout à l'heure dans la régénération X. Y, c'est moins choquant, mais tout de même, et pour votre confort aussi. Pensez à votre propre confort. Quand vous êtes bien installé, suivant les maisons de recommandation qu'on vous dit, vous êtes plus à l'aise aussi. Donc ça, c'est important. Bon, voilà. Mais sinon, si vous êtes installé droit ou si vous êtes un peu dans la chaise, ça ne va pas non plus changer la posture. Voilà, ce sont des recommandations. Ce qu'il faut éviter, ce sont les mauvaises postures. Sans copier celles qu'on vient de vous montrer qui, entre guillemets, est idéale, c'est une posture où vous soyez à l'aise, mais évitez de croiser les bras, d'avoir le... Hein, d'avoir une posture, voilà, qui vous convient, mais en même temps qui ne soit pas tout ce qu'on vient de vous montrer et qui n'est pas engageante, voire respectueuse pour la personne qui est en face de vous, tout dépend de l'âge qu'elle a aussi.
Et juste, ça peut bien, mais croiser les jambes, pas croiser les jambes, parce que des fois ça m'est arrivé, j'étais loin, très loin, la chaise était loin, j'allais pas la rapprocher. Donc, du coup, ça a été une importance ou quand même.
Croiser les jambes, alors ça, c'est vrai qu'on a beaucoup d'habitude, surtout les femmes.
Oui, voilà,
en
surtout.
Si on vient à l'entretien en jupe, on a tendance à croiser les jambes, d'accord. Ça peut être aussi interprété comme un.
Non.
Voilà,
adaptez votre tenue à l'entretien.
Ça peut être interprété comme un mouvement aussi de croiser les bras, croiser les jambes, mais une fermeture vis-à-vis de l'autre.
Ouais.
Est-ce que vous avez posé les jambes?
Et vous allez poser la question de ce côté, c'est ça?
De savoir si la personne est assise à côté de nous et non pas à côté.
C'est hyper rare.
Ouais, j'ai déjà une phase du pour qu'on puisse.
Ouais.
Est-ce qu'il faut se tourner plus vers lui ou un truc.
Vous êtes d'accord, en gros, c'est comme si j'étais assis là, quoi.
Voilà. Ouais.
Ouais. Ça, c'est très rare. Et en général, ça se fait pas parce que je fais deux fois d'heure et ça peut être très mal interprété. Donc l'idée, si ça arrive comme ça, c'est de décaler le plus possible. Si c'est une table ronde, tu te pousses. Mais en général, moi, je l'ai fait comme ça. Autre question sur les postures. Donc je sais pas du coup, j'ai pas de question sur... Donc effectivement, pardon, hein, je reprends la chaise. L'histoire, c'est d'avoir le dos droit, en fait. Pardon. Du coup, et avoir le dos droit, ça permet d'être vraiment en face à face avec l'autre.
Voilà, il nous est souvent arrivé d'arriver dans les bureaux et puis on reste debout derrière la chaise et on attend qu'on demande de nous asseoir. Ou alors à l'inverse, parfois on arrive, on va tirer la chaise rapidement et puis on va s'asseoir. Alors si on est en face de recruteur, qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'il nous demande de nous asseoir ou alors on va prendre des initiatives de prendre place.
Il faut toujours imaginer de laisser croire au recruteur que c'est lui le chef. Donc tu attends qu'ils te demandent de s'asseoir. Non, c'est souvent quand même des règles du jeu qui sont acceptées. Donc vous vous positionnez, vous dites asseyez-vous ici, monsieur. T'attends tu te mets devant la chaise, t'attends qu'il passe de l'autre côté du bureau, qu'il s'assoie, tu te fermes. S'il dit rien, t'attends qu'il s'assoie en même temps. Enfin, tu t'assois en même temps que lui. Sinon, il te le dit, mais attendez toujours. Où est-ce que vous pouvez poser vos affaires si vous allez sûrement avoir des sacs, donc où est-ce que vous pouvez poser vos affaires, etc. C'est vraiment de la bienséance là pour le coup. Enfin, il faut imaginer ça comme ça.